Bonjour.
Bonjour Toufik, bonjour à tous. Alors que la deuxième vague de la Covid s'abat sur l'Europe, les cas de contamination flambent. 52 000 en France ces dernières 24 heures, un record. Hausse importante également en Italie et en Espagne qui, comme la France, renforce les restrictions. Madrid a décidé de réinstaurer l'urgence sanitaire hier, ainsi qu'un couvre-feu pour une durée de 6 mois. Reportage de Marie-Hélène Balestero. En France, 46 millions de personnes vivent depuis ce week-end sous couvre-feu. L'exécutif prépare les esprits des Français à la possibilité d'un reconfinement. Il est inévitable, même pour certains infectiologues, tant le virus circule rapidement, vous l'entendrez. Focus également sur les travailleurs et travailleuses du sexe, pour qui le couvre-feu rime à nouveau avec augmentation des risques et de la précarité. Et puis direction la Chine, à la fin de ce journal, avec la réunion du comité central du Parti communiste à partir d'aujourd'hui, qui doit déterminer le nouveau plan quinquennal pour rendre le pays encore moins dépendant des autres. Ce n'est pas une vague, c'est un raz-de-marée de coronavirus qui s'abat sur l'Europe pour la seconde fois cette année. Parmi les plus touchés, la France et l'Italie, mais aussi l'Espagne. Après 7 mois de respiration après la première vague, le gouvernement espagnol décrète un nouvel état d'urgence sanitaire. Annoncé hier par le Premier ministre Pedro Sanchez, il doit durer 6 mois, assorti d'un couvre-feu nocturne pour tout le pays, sauf les îles Canaries. Plus personne dehors entre 23h et 6h du matin, Marie-Hélène Balestero.
Pour faire face à la deuxième vague du Covid-19, Pedro Sanchez a demandé aux Espagnols hier de limiter les déplacements et les contacts qui ne sont pas indispensables. Il s'est adressé tout particulièrement et à plusieurs reprises aux jeunes, conscient que c'est difficile pour eux de restreindre leur mobilité et leur vie sociale. Mais comment réagissent ces jeunes à l'annonce du nouvel état d'urgence sanitaire et du couvre-feu nocturne ? Jeune étudiante universitaire, Alba reste très sceptique.
Réellement, je ne pense pas que la situation change, car les jeunes vont continuer à chercher d'autres façons de s'amuser. Par conséquent, au-delà du fait que je trouve excessif de décréter un état d'urgence pendant 6 mois, je pense que le couvre-feu ne va pas du tout être efficace.
À 19 ans, Barbara est partagée. Elle reconnaît que des mesures sont nécessaires pour combattre le Covid-19, mais elle remet en cause le couvre-feu.
C'est clair que les gens ne vont pas rentrer chez eux à 23h. On devrait être plus conscient et ne pas le faire, oui, mais est-ce qu'on obéit ? Non. Je pense même que ces mesures vont nous inciter à nous rassembler dans des lieux fermés et à être plus nombreux que si on était à l'air libre ou dans un bar.
La mise en place du nouvel état d'urgence et notamment du couvre-feu nocturne s'annonce compliquée en Espagne. C'est pourquoi hier encore, Pedro Sanchez a appelé les Espagnols à l'unité, la responsabilité et la discipline sociale. Il les a invités également à rester au maximum à la maison pour éviter les cas de contagion. Un message que les jeunes Espagnols ont du mal à entendre pour l'instant.
Marie-Hélène Balestero. En Italie, 2 nouvelles régions, le Piémont et la Sicile, seront soumises à un couvre-feu. Elles s'ajoutent aux 3 autres, Lazio, Lombardie et Campanie, qui ont déjà adopté cette mesure la semaine dernière. Cinéma, théâtre, salle de gym et piscine vont fermer aujourd'hui jusqu'au 24 novembre. En France, le cap du million de cas dépassé vendredi, 45 000 nouvelles contaminations samedi et hier. Ce nouveau record, 52 000 personnes testées et positives à la Covid. Depuis samedi soir, le couvre-feu est élargi pour près de 46 millions de Français au total. Interdiction de sortir entre 21h et 6h du matin. Et le spectre d'un reconfinement fait de nouveau son apparition. Le gouvernement l'évoque. Il ne faut absolument rien écarter, disait hier à ce sujet Cédric O, le secrétaire d'État au numérique. Mais tous précisent bien vouloir tout faire pour l'éviter. Il semble en revanche inéluctable pour certains médecins, Adrien Palluet.
Limiter les contacts entre individus, c'est le seul moyen pour enrayer une épidémie, selon Benjamin Davido, infectiologue à l'hôpital Raymond Poincaré de Garches. Le couvre-feu mis en place ces derniers jours semble alors tout à fait justifié, mais selon le médecin, le manque de pédagogie autour de cette notion de couvre-feu pourrait être préjudiciable.
Ce qu'on voit de plus en plus, c'est que les Français commencent à vivre à l'anglaise. Ils ont décalé un certain nombre d'activités du soir, le repas notamment, l'avance à 18h. Et qu'en fait, en faisant ça, finalement, on déplace le problème. Ça me fait penser qu'on risque d'avoir quasiment aucun effet bénéfique sur les contaminations et donc le nombre de cas qui arrivent à l'hôpital dans les prochains jours.
Parce qu'il existe aujourd'hui une différence majeure avec le plus fort de l'épidémie au printemps dernier. Le virus circule activement sur l'ensemble du territoire. Pour Benjamin Davido, il faut donc pousser plus loin la logique du couvre-feu.
La première étape, c'est que je pense qu'il faudrait mettre le couvre-feu dans l'ensemble du territoire, parce que la réalité, on le voit bien, c'est qu'il n'y a aucune ville qui est épargnée, et que tant bien même on voudrait soulager les villes qui aident, comme Bordeaux, permettrait de stopper la transmission du virus dans ces villes et donc avoir une certaine marge de manœuvre.
Et de la distanciation entre les individus.
Il faudrait, si on veut éviter le confinement, qu'on favorise massivement, lorsque c'est possible, le télétravail.
Ces mesures de confinement, partielles ou totales, subissent des critiques venant d'une partie de la communauté scientifique qui demande plutôt de se concentrer sur les tests.
Il est un métier qui ne peut s'exercer en télétravail, celui de travailleurs et travailleuses du sexe. Depuis l'instauration du couvre-feu il y a 8 jours, en Ile-de-France et dans 7 autres grandes métropoles, c'est devenu très difficile de travailler. Beaucoup le respectent et se retrouvent sans ressources. Les autres prennent le risque de récolter une amende et sont encore plus vulnérables face aux clients. Reportage de Thomas Giraudeau.
Ne pas respecter le couvre-feu pour survivre. À Lyon, Nadja Deloro travaille depuis 35 ans dans la rue. Elle n'a aucune autre source de revenus et aucune allocation en cas de perte d'activité, comme la plupart des travailleuses du sexe.
Chacune dans la rue a sa place. On ne peut pas comme ça débarquer le jour au même endroit où il y a des gens qui travaillent. Il y a certains endroits où ça tourne quand même au niveau clientèle après 21h.
Elle se déplace souvent pour éviter les policiers et l'amende pour violation du couvre-feu. Depuis sa mise en œuvre aussi, des strip clubs, des théâtres érotiques ont fermé ou avancé leurs horaires d'ouverture, comme celui où travaille Amar. Elle est aussi escorte pour tenter de s'en sortir financièrement.
Vous avez moins de clients qui viennent assister au spectacle et en tant qu'escorte. Pour tous les clients qu'on peut avoir le soir, par exemple, c'est fini. Donc la conséquence, c'est l'absence en fait de revenus. Donc si ça dure trop longtemps, je pourrais, comme ça a été le cas pendant le confinement, plus payer mon loyer. Pour ma part, et je pense l'ensemble des travailleurs du sexe, on est à bout de souffle en fait.
Le couvre-feu, c'est comme un nouveau confinement pour tout le secteur, nous dit Anaïs Delenclos, la porte-parole du STRAS, le syndicat des travailleuses et travailleurs du sexe.
Avec le Covid et la pandémie, il y a encore moins de clients. On se retrouve avec des personnes qui acceptent des pratiques pour des sommes dérisoires, qui acceptent des pratiques dangereuses, parce qu'elles n'ont plus le choix. Quand vous n'avez personne dans la journée et que la seule personne qui vient vous propose 10 euros ou juste un sandwich, ben vous l'acceptez parce qu'il faut que vous mangiez. C'est juste intolérable.
Le syndicat reçoit depuis le confinement de plus en plus d'appels de femmes violentées par leurs clients, dégoûtées par ce qu'elles ont dû faire.
Le boycott des produits français et les manifestations contre Emmanuel Macron dans plusieurs pays musulmans doivent cesser. C'est la réaction du Quai d'Orsay hier qui dénonce un mouvement alimenté par une minorité radicale qui vise le président français pour ses positions sur l'islam. Dans le même temps, le président turc Recep Tayyip Erdogan s'est attaqué à plusieurs reprises ce week-end à Emmanuel Macron, à qui il est reproché de défendre les caricatures du prophète Mahomet et de vouloir légiférer sur le séparatisme islamiste. La France, en conséquence, a rappelé à Paris son ambassadeur à Ankara. Nous y reviendrons en détail dans le prochain journal à 7h. En Biélorussie, sans surprise, le président Alexandre Loukachenko n'a pas répondu à l'ultimatum de l'opposition. Svetlana Tikhanovskaya, au nom du peuple, exigeait la démission avant-hier soir maximum de l'autocrate, vainqueur contesté de la présidentielle au mois d'août. Pour elle, le régime montre une nouvelle fois qu'il ne connaît que la force. Elle appelle à une grève nationale dès aujourd'hui en représailles. En Chine, doit se dérouler à partir d'aujourd'hui l'un des moments majeurs de la politique du pays. Plus de 300 membres du comité central du Parti communiste se réunissent sous la direction de Xi Jinping à Pékin, avec pour travail d'établir le 14e plan quinquennal, la nouvelle feuille de route de la Chine pour les 5 ans à venir. Le contexte mondial est particulier avec la pandémie et l'affrontement idéologique entre le pays et l'Occident. Le parti compte donc miser sur l'innovation technologique pour rendre la Chine autonome et autosuffisante, le numérique, la 5G notamment, en soutenant la Silicon Valley chinoise à Shenzhen, comme l'explique Shi Nerong, professeur à l'Université du Peuple à Pékin et conseiller du gouvernement.
Le gouvernement chinois estime que l'économie planifiée et centralisée n'est pas adaptée au développement des hautes technologies sur le plan national. C'est une décision importante que Shenzhen soit à nouveau choisi comme zone pilote pour développer les nouvelles technologies. C'est urgent et stratégique. Dans le passé, l'économie de marché a été testée à Shenzhen avec succès. Ça a permis un développement rapide de la Chine. Le gouvernement central va donner à Shenzhen davantage de liberté pour réaliser cet objectif d'innovation. L'économie planifiée reste essentielle pour la marche du pays. Shenzhen complète notre modèle économique pour pouvoir avancer dans les hautes technologies.
Chineirong au micro de Dominique André. Aux États-Unis, on est maintenant à 8 jours de la présidentielle, dernière ligne droite pour la campagne, alors que le vote par correspondance vient de battre le record de 2016. Près de 60 millions d'électeurs ont déjà déposé leur bulletin. L'épidémie de coronavirus reste le sujet de préoccupation dans cette dernière ligne droite. Le camp de Donald Trump assure que le pays sera très rapidement sauvé par un vaccin. En revanche, pour le camp de Joe Biden, la mauvaise gestion de la crise ne leur donne pas droit à un second mandat. Voilà pour les dernières déclaration. Le temps aujourd'hui sera humide sur une majeure partie du pays, nous dit Météo France. Des nuages, de la pluie et des orages, excepté sur la frontière nord. Quelques éclaircies dans le sud, près de la Méditerranée cet après-midi. Côté température, les minimales varieront de 7 à 15 degrés, les maximales entre 7 et 22 degrés.